Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondé. Avec le soutien des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de France, de Suède, d'Allemagne et de Belgique.
Comment reconnaître une mine antipersonnel et les engins non explosés, vous savez, tel que je l'ai dit au début, notre pays a connu la guerre et surtout dans la partie est, et nombreuses mines antipersonnel sont peut-être jusqu'aujourd'hui restées enfouies sous la terre. Et il y a eu plusieurs victimes, des gens qui ont marché sur ces mines et qui ont vu leurs membres inférieurs amputés. Alors, il y a peut-être aussi d'autres engins non explosés quelque part. Alors, comment les reconnaître? Où est-ce qu'il faut aller signaler lorsqu'on se retrouve devant ces genres d'engins? Est-ce qu'il faut les manipuler? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les précautions à prendre? On en parle avec Haruna Ouédraogo. Il est le directeur des programmes de lutte contre les mines aux Nations Unies. Encore bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de mines antipersonnelles et des engins non explosés dans notre pays.
Avant de répondre à cette question, permettez-moi de remercier Radio Okapi et de surtout de féliciter les animateurs de Radio Okapi pour, disons, tout le concours que vous ne cessez d'apporter à la lutte anti-mine en République dans ce pays.
Voilà.
En effet, à travers vos émissions, vous contribuez à n'en pas douter à informer et à sensibiliser les populations sur ce danger, ce qui constitue du reste l'un des piliers de la lutte anti-mine, qui en compte 5, soit dit en passant. Pour revenir à votre question, c'est vrai, la République démocratique du Congo, de par les différents conflits que le pays a connus, constitue certainement une zone à risque pour ce qui est des mines et des engins non explosés. J'ai envie de dire que pratiquement tout le territoire est couvert par ce fléau, parce que de par les statistiques que nous avons, même Kinshasa, qui a été une zone qui n'a pas connu beaucoup de combats, même Kinshasa regorge de zones dangereuses qui ont été répertoriées et de victimes qui ont été donc répertoriées.
Donc ce n'est pas seulement
à l'est du pays, mais même à l'ouest, dans le Bandundu, dans les autres provinces, en Équateur, presque toutes les provinces, toutes les 11 provinces ont quelque part des statistiques qui nous prouvent qu'il y a des dangers. Comme vous le dites, il y a les mines, mais il y a également les engins non explosés.
Oui.
Les restes, ce que nous appelons de plus en plus maintenant les restes explosifs de guerre. C'est-à-dire que c'est constitué par tous les éléments, tous les engins qui ont été tirés, par exemple, à partir des canons, à partir des fusils mitrailleurs, à partir des lance-roquettes.
Oui.
Donc tous ces engins qui très souvent ont été tirés, mais n'ont pas fonctionner et qui demeure qui jonche le sol et qui constitue des dangers tout aussi importants, sinon souvent plus importants que les mines antipersonnelles, parce que
si on les touche, ça peut provoquer
une explosion et un accident. Et à titre d'exemple, je vous citerai, il y en a plusieurs comme ça, le cas de famille où le père de famille, pour subvenir aux besoins de la famille, a trouvé ce genre d'engin et voulait récupérer le fer pour pouvoir vendre ou pour pouvoir avoir quelques revenus.
Et il savait pas que c'était
dangereux. Il est arrivé à la maison, donc il s'est mis à taper dessus pour pouvoir récupérer le fer et cela a pratiquement décimé toute la famille dans certains cas.
Et où est-ce que ça s'est passé?
À Irumu, par exemple, nous avons eu un exemple où toute une famille de 6 personnes a été complètement décimée. Il y a eu un seul survivant, mais qui était dans un état très grave. Et il y en a eu beaucoup de par le territoire, dans les Kivu, dans le Maniema. Nous avons des exemples comme ça.
C'est quand même dommage. Alors, mais comment reconnaître, par exemple, une mine antipersonnelle? Cela à quelle forme et comment ça se présente?
Très intéressante question. Les mines antipersonnelles, on en a de plusieurs sortes, des milliers, je vais dire des dizaines et des dizaines de formes et de sortes, de couleurs. Donc il n'est pas facile de répondre à cette question comme ça, parce que cela va de simples, objets ayant la forme d'une boîte de conserve, à des objets ayant des diverses formes, souvent très amusantes et très intéressantes pour les enfants, comme des formes de papillons.
Papillon.
Il y en a même ce qu'on appelle les mines papillons. Ce sont des mines qui ont exactement la forme et la couleur des papillons, la taille des papillons et qui sont posés sur le sol et qui sont donc très attrayants pour les enfants, très attrayants même pour les personnes âgées.
Oui.
Et donc qui constituent des dangers. Alors il y en a non, comme je l'ai dit, la plupart des mines sont enfouies, mais il y a beaucoup de catégories de mines aussi qui ne sont pas enfouies, qui sont posées à même le sol ou qui sont posées sur les arbres, collées aux arbres.
Mmh.
Et donc il n'est pas facile de dire comment on peut reconnaître. Ce que je peux dire, c'est que lorsque
donc,
vous
y a,
êtes...
Il y a d'autres qui ont la forme des bananes, des
oranges.
Bananes,
des oranges, des boîtes de conserve, comme je l'ai dit, des
oui.
boîtes de sardines. Il y en a un peu de toutes les formes.
Oui.
Il y en a qui ont la forme de livres, pratiquement.
Mm. Bah,
les mines, les clémores ont des formes qui sont très attrayantes aussi.
Oui.
Ce que je peux dire, c'est que lorsque vous vous trouvez dans une zone où il y a une zone à risque, c'est-à-dire qu'une zone où vous savez qu'il y a eu des combats, où il y a eu des séjours de milliers de troupes militaires.
Il ne faut pas s'engager.
Il faut simplement, à partir de ce constat-là, à partir mm-hmm. du fait de savoir qu'il y a eu des présences militaires,
oui.
il faut simplement faire attention à tous les objets qui traînent sur le sol et qui ne sont pas des objets d'usage courant que vous trouvez dans la vie. Donc, dès que vous voyez quelque chose comme ça, il faut le considérer comme suspect. Pour ce qui est des engins non explosés, très souvent la population les connaît quelque peu parce que à force de voir les militaires qui passent en trimballant les lance-roquettes avec les obus, qui passent en trimballant les obus de mortier
mm-hmm.
Sur leur dos, beaucoup de ces populations reconnaissent ce type d'engin.
Oui.
Mais pour les mines, c'est totalement différent. Il faut simplement dire qu'il faut beaucoup faire attention et ça constitue même l'objet de ce que nous appelons l'éducation au danger des mines. C'est l'une des parties, des composantes essentielles de l'éducation au danger des mines, c'est-à-dire
mm-hmm.
apprendre aux gens
oui.
à pouvoir reconnaître ces différents engins. Et cela se fait à travers des dépliants, cela se fait à travers des affiches
oui.
que nous avons, cela se fait à travers des livrets pour les enfants dans les écoles, et cela se fait à travers des objets pratiques de tous les jours que les gens utilisent, à savoir des sacs par exemple, sur lesquels il y a des dessins, et ces dessins montrent les formes de ces différents types d'engins, de ces différentes mines, pour que les populations justement apprennent à se familiariser avec et à les reconnaître.
Par exemple, à l'Est, il y a des populations qui ont été déplacées suite à la guerre. Peut-être que les gens peuvent revenir après, mais vous dites qu'il faut beaucoup de précautions, mais parfois c'est très compliqué, c'est difficile. Hein?
Parfois c'est très difficile. Mmh. Vous m'avez donné l'occasion d'évoquer le cas d'un village où nous avons récemment remis une portion de terrain déminé à la population,
oui.
le village de Mitondo.
C'est où là?
C'est dans le Katanga, Tanganyika.
Oui.
Une belle histoire, enfin une malheureuse histoire qui a connu une belle fin, je dois dire.
Mm-hmm.
Voilà, un village où en 1998, avec l'arrivée des troupes rwandaises, les populations ont fui le village, sont parties donc se réfugier
dans la forêt,
ailleurs.
Mm-hmm.
Et puis vers 2004, donc après tout cela, quand ça s'est tassé, quand ça s'est calmé, cette population décide de revenir dans le village. Et au premier mouvement de retour, il y a une bonne maman de cette population qui saute sur une mine.
Elle est morte sur le champ.
Elle n'est pas morte. Je l'ai vue il y a 3 ou 4 semaines quand j'étais à Mitondo.
Mm-hmm.
Elle est vivante, mais elle a été amputée de la jambe. Et donc, comme par chance, lorsqu'il y a eu cet accident, il y avait également, et la population a bien réagi, a signalé tout de suite cet accident donc aux autorités locales,
mm-hmm.
lesquelles autorités locales avaient connaissance du fait qu'il y avait un opérateur de déminage dans la région qui était Dan Church Aid. Donc ils ont fait appel à cet opérateur de déminage
oui.
qui a entrepris l'opération de dépollution. C'est très bien déroulé. Et finalement, au bout du compte, lorsque nous remettions cette terre à ces populations pour leur dire que maintenant cette terre était sûre et pouvait être utilisée sans danger,
mm-hmm.
Nous avons eu le concours de d'autres organisations des Nations Unies comme le PAM et comme la FAO, qui donc nous ont aidés dans cette remise de terre en apportant des semences et des outils de travaux agricoles
mmh.
à ces populations. Alors donc, quelque part, cette population a non seulement retrouvé sa terre, mais a eu un concours pour contribuer à la redynamisation des travaux sociale, dans cette zone.
Voilà, vous avez des questions, des réactions, ou soit vous vivez dans une zone où il y a encore la présence, des zones à risque, donc où il y a la présence des mines antipersonnelles. N'hésitez pas, composez le 081-890-6394 pour intervenir. Notre invité est là pour vous rendre service, ou écrivez-nous carrément à notre adresse e-mail, c'est service@radiocapi.net.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'opération dépollution. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Et ça s'est fait à l'aide de quels appareils? Qu'est-ce qu'on utilise comme appareil pour cette opération-là?
Alors, la dépollution, comme son nom l'indique, c'est le fait d'enlever la pollution qui se trouve donc sur cette zone,
donc
les mines et les engins non explosés. Alors, les techniques, il y en a plusieurs, mais la plus appropriée et la plus, utilisée, c'est le déminage manuel. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une zone qui est considérée comme suspecte, on envoie des démineurs sur cette zone et les démineurs commencent d'abord avec des appareils que nous appelons détecteurs. À l'aide de ces détecteurs, commencent de visu d'abord, en regardant simplement à voir s'il n'y a rien supposé sur le sol. Et après cette opération de recherche de visu, ils utilisent ce qu'on appelle le détecteur. C'est un travail très minutieux et très laborieux. Donc, ils utilisent cet appareil pour balayer le sol, prendre du temps. C'est un appareil qui a un certain magnétisme, c'est-à-dire ça permet de détecter les objets métalliques. Et donc, ils balayent très lentement et très doucement le sol une vingtaine de centimètres du sol pour justement détecter les sons qui seront émis par des objets métaux éventuels, parce que les mines pour la plupart contiennent des objets métalliques. Donc, après cette opération, lorsqu'il y a un signal qui indique qu'il y a un objet suspect, le démineur s'arrête et à ce moment, il commence ce qu'on appelle à sonder, l'opération de sondage. L'opération de sondage consiste à l'aide d'une sonde à piquer dans le sol jusqu'à pouvoir rencontrer l'objet en question. Et à partir du moment où l'objet en question a été rencontré, il marque l'endroit, il avertit son chef, et il continue maintenant à excaver la terre pour pouvoir aller jusqu'à retrouver. Et là, vous comprenez bien que compte tenu du fait que la mine, c'est un engin qui explose lorsque vous la touchez, cette opération est très délicate et il faut absolument beaucoup de tact aux démineurs pour pouvoir arriver à enlever la terre jusqu'à rencontrer cet objet, mais sans la toucher.
Donc même lui-même, il court beaucoup de risques.
Lui-même, il court énormément de risques et c'est pour ça que le déminage est très dangereux. Et donc, voilà. Par-delà cette technique de déminage manuel, il y a ce qu'on appelle le déminage avec l'utilisation de moyens mécaniques. Ce sont des engins qu'on fait passer, télécommandés. Ce sont des engins comme des grosses machines Caterpillar, voilà, qui passent et qui sont
télécommandées,
et donc qui ont fait rouler sur le sol et jusqu'à ce que il y a explosion lorsqu'il y a eu présence d'une mine, puisque ça passe avec un certain poids sur le sol. Donc ça fait exploser les mines qui sont sur le sol. Il y a d'autres engins qui ne sont pas télécommandés, mais qui sont conduits par des hommes, les casse-pires et autres. Ce sont des gros camions qui ont des blindages qui leur permettent de résister aux explosions de ces mines-là. Et donc c'est une autre technique. L'une des dernières techniques, c'est l'utilisation de chiens. Et ça, c'est des chiens entraînés pour pouvoir détecter les explosifs. Donc, ces chiens-là, on les fait courir, on les balade dans les zones dangereuses, sur les zones dangereuses.
Mais ils risquent aussi.
Ils risquent aussi.
Ouais.
Mais compte tenu du fait qu'ils avancent progressivement, c'est-à-dire qu'ils commencent par la partie qui est sûre, et donc en reniflant, ça veut dire que le risque est largement diminué. Donc, lorsqu'ils sentent la présence d'un explosif, ils prennent une certaine attitude qui indique qu'il y a quelque chose, et le maître chien, à ce moment, marque cette zone, et donc laisse le travail aux démineurs. De plus en plus, il y a
donc
des
les
techniques
chiens,
qui
ces
se développent.
Donc, sont éduqués, ils peuvent bien
ce
sentir les...
Ils sont très bien éduqués. Ouais. Vous les voyez, vous en voyez d'ailleurs dans les aéroports. Ce sont les mêmes types de chiens qu'on utilise dans les aéroports pour la détection des engins, des explosifs dans les bagages. Vous voyez des chiens dans les aéroports qui reniflent souvent les valises et les autres colis. Ouais. Voilà, donc c'est le même type d'entraînement qu'ils ont subi. Voilà, de plus en plus, il y a d'autres techniques. Il y a des rats. Ça peut faire sourire, mais il y a donc des rats que nous sommes, qui font l'objet d'expériences d'ailleurs très avancées. Et c'est dans un pays africain pour une fois. C'est un pays africain qui a pris le lead. C'est en Tanzanie qu'il y a cette expérience qui est conduite. Voilà, où on utilise les rats.
Comment?
Pour détecter. On les tout comme les chiens. On les envoie se balader sur la zone suspecte et avec leur sens très élevé. Très aigu de détection des odeurs. Les rats arrivent à, donc quand ils sont bien entraînés à sentir les odeurs des explosifs, lorsqu'il y a un explosif quelque part, ils sentent et donc ils font un signe qui indique qu'il y a un explosif, une matière explosive à cet endroit.
Nous avons en ligne Jean-René qui nous appelle, qui nous suit depuis la ville de Kananga. Jean-René, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation est celle-ci. Est-ce que, généralement, les mines sont métalliques? Est-ce qu'il n'y a pas aussi de mines en plastique?
Oui, belle question. Comme je l'ai dit, il y a des mines métalliques, il y a également des mines plastiques, il y en a même en bois. Alors, je veux dire qu'il y en a qui ne sont pas détectables avec vous faites bien de poser la question, il y en a qui ne sont pas détectables donc avec ces fameux détecteurs dont je parlais tout à l'heure. Et donc, là, c'est là où la technique d'utilisation des chiens et autres engins mécaniques peut prendre tout son sens.
Et puis, il n'y a pas d'autres sortes de mines à part les mines antipersonnelles?
Il y a les mines anti-chars, anti-véhicules, comme on les appelle. Ce sont des mines qui sont destinées à détruire les engins de combat, les véhicules, les chars et autres engins, camions qui sont utilisés dans les zones de combat. Voilà les deux types de mines. Mais la convention d'Ottawa à laquelle nous faisons référence lorsque nous parlons de lutte anti-mines prend en compte essentiellement les mines antipersonnelles.
Voilà. Et donc, les mines peuvent être métalliques, en plastique et en bois, ce qui complique encore l'équation. C'est trop compliqué pour les populations, par exemple, ceux qui vivent dans nos villages. Alors, quels conseils pratiques vous donnez généralement à ces personnes par rapport à ces dangers?
Alors, le conseil, c'est que si c'est du visu que vous constatez un objet suspect, c'est tout de suite de s'arrêter, de ne pas toucher à cet objet, de marquer si vous...
Mais vous avez dit que ça peut être une boîte de conserve. La boîte de conserve n'est pas suspecte. Dès que vous êtes devant une boîte de conserve, vous ne pouvez pas soupçonner qu'il peut s'agir d'une mine.
Oui, quand je dis effectivement, mais je veux dire ce qui est suspect. Ce qui n'est pas suspect, bien sûr, il n'y a rien à faire. Il faut simplement que les gens soient avertis dans ces zones-là, dans les zones qui sont affectées. Les gens font des séances d'éducation au danger des mines et on leur montre effectivement même celles qui ressemblent à des boîtes de conserve, on leur montre les modèles et donc ils peuvent les reconnaître. Donc dans tous les cas, même si il n'y a pas eu cette séance d'éducation au danger des mines, dès que vous trouvez un engin suspect, quelque chose de suspect, un objet suspect, c'est d'éviter d'y toucher. Surtout lorsque vous savez que vous êtes dans une zone
où il y a eu des combats,
où il y a eu des présences, des militaires qui ont séjourné pendant longtemps.
Oui.
Donc cela déjà constitue aux yeux de tout le monde des éléments suspects de présents qui peuvent amener la présence de ces mines ou de ces engins non explosés. Alors donc, il faut tout de suite... éviter de les toucher, il faut éviter de marcher dessus ou de jouer avec, il faut tout de suite chercher à signaler, soit au niveau de la communauté villageoise, s'il y a des gens qui ont été entraînés et formés pour l'éducation au danger des mines, il faut les informer, ou alors informer les autorités, aussi bien coutumières que les autorités administratives gouvernementales, donc informer ces autorités qui savent comment relayer l'information. Parce que le centre de lutte anti-mine est un centre qui a des bureaux régionaux. Donc il y en a essentiellement à Goma. Il y a un bureau régional à Goma, il y a un bureau régional à Kisangani, il y a un bureau régional à Lubumbashi, en plus du bureau du quartier général à Kinshasa. Donc ces autorités savent, nous avons tout fait pour faire passer l'information. Les autorités savent à qui relayer l'information. Par-delà les bureaux régionaux du centre de lutte anti-mine, il y a les opérateurs de déminage qui se trouvent sur le terrain. C'est l'occasion pour moi de les saluer et de les nommer. Mmh. Il y a un opérateur qui est appelé Mine Adversary Group, MAG. Les gens voient beaucoup de camions avec le sigle MAG, MAG. Oui. Là, il y a un autre opérateur, Dan Church Aid, qui se trouve dans le Katanga, qui se trouve aussi dans le sud Kivu. MAG se trouvait aussi dans le Katanga et dans l'Équateur pour l'instant. Mm-hmm. Il y a d'autres opérateurs comme Handicap International Belgique, qui est basé essentiellement à Kisangani et qui opère dans la province donc orientale. Il y a également des compagnies. Il y a une compagnie privé qui a été contracté par la MONUC, payé par la MONUC, donc pour les opérations de déminage, c'est l'opérateur MECEM qui permet. Donc voilà des opérateurs qui se trouvent un peu partout sur le terrain et auxquels on peut s'adresser lorsqu'il y a justement présence d'un suspect.
Radio Okapi, Okapi. Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94 et envoyez vos SMS au 081 070 20 50 ou bien écrivez-nous à action@radiookapi.net.
Alors, parlons de Kinshasa, Aruna, où il y a eu dernièrement, on le sait, des combats autour du centre-ville. Est-ce qu'il y a, on peut dire que le centre-ville, surtout sur le boulevard du 30 juin, reste une zone à risque?
Sur le boulevard du 30 juin, je dirais non. Je ne peux pas répondre à 100% avec eux, mais je veux dire que par rapport à ce qui a été fait après ces combats, notamment, et ça c'est l'occasion pour moi de les saluer, notamment par les éléments des contingents militaires de la MONUC, les Uruguayens et autres Ghanaiens. Mm-hmm. Donc on a bâti un certain travail qui nous a permis de relever et d'enlever, de détruire beaucoup d'engins.
Beaucoup d'engins ont été récupérés.
Récupérés, détruits. Particulièrement autour de cette zone du boulevard, donc de la Gombe. Ouais. Parce que c'est là où nous avons eu beaucoup d'appels de la population. C'est là où il y a eu donc des combats, certainement beaucoup plus de combats, enfin beaucoup plus d'escarmouches entre les différents belligérants. Ouais. Mais donc nous avons reçu, et les gens étaient aussi, comme c'est une zone où les gens sont très avertis, enfin, la Gombe constitue une zone résidentielle, donc où les gens ont quand même un certain niveau d'information qui leur permet de savoir de quelques dangers qu'ils peuvent courir. Donc nous avons eu beaucoup d'appels et nous avons réagi avec l'aide, donc avec le concours des éléments militaires de la MONUC. Nous avons réagi très rapidement et nous avons enlevé ces engins explosifs. Il y en a même que nous avons trouvé dans des toilettes de certains domiciles.
Ah bon?
Parce qu'on est, on y est allé les mettre intentionnellement, mais parce qu'ils ont été tirés, ils ont traversé les toits et donc ils sont allés atterrir dans les toilettes quelque part.
Sans exploser.
Il y en a eu partout. Il y en a qui ont explosé et qui ont brûlé un immeuble sur le boulevard qui a eu un de ces étages qui a été pratiquement détruit par justement un engin explosé qui a fonctionné et qui a brûlé tout l'étage.
Voilà, donc il faut être prudent, surtout dans les zones où il y a eu de combats, il y a eu la présence des militaires. Lorsque vous revenez, par exemple, les retourner, donc cela demande beaucoup de prudence. Dès que vous voyez un objet suspect, il faut signaler. Donc l'important, c'est de faire passer l'information.
L'important, c'est de faire passer. Le plus important, c'est faire passer l'information et savoir où faire passer l'information. Donc nous avons de cesse d'insister pour que les gens cherchent à s'informer, particulièrement les gens qui vivent dans ces zones à risque, où même les gens comme les gens des Nations Unies, les travailleurs des Nations Unies, les travailleurs de l'humanitaire qui vont dans ces zones à risque, nous avons de cesse de leur demander de chercher à s'informer. Et pour s'informer, il y a le centre de lutte anti-mine qui est à Kinshasa, qui dispose d'un site, le www.mac.drc.org. Il y a donc ce site. Il y a également des productions de ce centre comme des cartes, des mappings, des cartes de zones dangereuses, des productions comme les statistiques par village, par province, donc qui vous donnent, si vous voulez, les zones à risque et qui vous permettent donc de pouvoir vous préparer.
Alors nous avons Monsieur Kabuya depuis Kananga nous écrit, il dit à 200 km de Kananga, aux alentours de Beya Bwanga, Il y en a eu et on a vu sur terrain les démineurs y travailler un moment. Est-ce que le travail a abouti?
Alors, si les démineurs ne sont plus là, je me dis que certainement le travail a dû aboutir. Je n'ai pas l'historique de cet élément.
Oui.
Il y en a certainement du côté de aux alentours de Beya Bouanga. Je n'ai pas souvenance de ce, mais je sais que nous avons eu des démineurs dans cette zone, particulièrement les démineurs de la compagnie qui a été contractée par la MONUC, les démineurs de Mekem qui ont opéré dans cette zone et donc qui ont eu à relever et à détruire beaucoup d'engins. Alors s'ils ne sont plus là, je suppose et je suis convaincu que c'est parce que le problème a été résolu.
Haruna Ouédraogo, directeur de programme des Nations Unies de lutte anti-mine en RDC, merci et bonne journée.
Merci à vous.
Ah, David Kimberly, avec Eriti Watanabe.